Puis la rentrée, ce verset, Galates chapitre 5, verset 22, que le Seigneur avait mis sur mon cœur tout l'été, là, c'était comme un devoir qu'il m'avait donné à faire. Voilà, tu vas faire ce devoir, Galates chapitre 5, verset 22, et tu vas tout étudier. On avait vu un premier dimanche, un culte, le fruit. Je me disais en venant, je parlais un peu du fruit, mais si il avait fallu tout voir concernant tout ce que la Bible dit concernant le fruit, rien que le fruit, hein, parlant du fruit, on s'était arrêté sur plusieurs parallèles, etc. Et il y aurait encore quelques messages sur le fruit. On s'est arrêté sur le fruit et après on avait vu toutes les qualités du fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans ce passage, le Seigneur compare le Saint-Esprit à un fruit. Et ensuite, avec toutes ces qualités, on a vu la première qualité du fruit de l'esprit. Vous vous rappelez, c'était, si vous avez votre Bible, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On avait vu donc l'amour, la joie, la paix, la patience. Et ce soir, on va voir la bonté. Amen. Hein? Donc, ça fait 6 messages en comptant le fruit. Là, on arrive à la cinquième qualité du fruit, la bonté. J'ai regardé, j'ai encore creusé même cet après-midi un petit peu à la maison, la signification du mot bonté. Alors, ce n'est pas très, très compliqué, mais vous savez, quand on regarde plusieurs définitions, des fois, on découvre, et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, la bonté, c'est faire le bien, c'est être bon pour les autres. Vous ne dites pas amen. C'est être bon pour les autres. Hein. C'est une des définitions du mot bonté. Et donc, j'étais un peu plus loin et j'ai trouvé sur le Larousse, tout en creusant un petit peu, autre chose. Littéralement, c'est avoir des bontés. Avoir des bontés pour quelqu'un, et pour nous, c'est avoir des bontés pour Dieu. C'est se donner à lui. C'est se donner à lui. Et alors, j'étais surpris. J'ai dit, il faut que je leur dise. Et en lisant encore, en grattant, ils donnaient même une référence. Ils ont donné une référence de la Bible. Alors, il y avait plusieurs références, plusieurs citations d'hommes célèbres, etc. Et j'arrive dans... c'était une autre version. Mais j'arrive dans... Et ils donnent comme référence Osée, chapitre 10, verset 12. Alors pour moi, Osée chapitre 10, verset 12, regardez ce qui est écrit dans Osée 10, 12, je vais vous le lire, c'est le premier des petits prophètes, hein. Osée chapitre 10, verset 12, on le connaît par cœur ce verset. « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. » On connaît ce texte, hein. « Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Ça, c'est le verset 12. Et il donnait comme référence le dictionnaire Larousse, il donnait Osée chapitre 10, mais il donnait avec une autre version. Cette version, c'est ceci. « Faites-vous des semailles de justice, moissonnez une récolte de bonté. » Faites-vous des semailles de justice et moissonnez une récolte de bonté. Alors après, j'étais dans plusieurs versions, et dans la version français courant, ça dit à peu près la même chose. Semez ce qui est juste et vous récolterez la bonté. Mais j'ai préféré l'autre version. En fait, ils ont donné cette version, mais je suis pas arrivé à trouver quelle version c'était. Faites-vous des semailles de justice et moissonner une récolte de bonté. Amen. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut, c'est moissonner une récolte de bonté. Amen. Ça parle de moissonner, et ça parle de récolter. Et l'Église, elle récolte la bonté. Amen. Elle est bonne, elle va être bonne pour le Seigneur, mais elle va être bonne aussi pour son prochain. Que Dieu soit béni. Ça, c'est juste la signification. Et alors, en méditant, il y a de suite ce passage qu'on connaît, ça aussi, on le cite par cœur. C'est dans le livre des Lamentations de Jérémie, on va le lire. Vous vous rappelez de ce passage? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque mardi soir à Aubagne. Elles se renouvellent tous les matins. On va le lire, mais il y a quand même un enseignement à tirer hein, de ce livre de Jérémie. Et je me suis dit, tiens, tu vas relire le livre de Jérémie. Les Lamentations, c'est vite fait, il y a 5 chapitres. Ça, vous le lisez en rien de temps. Hein. Mais le livre de Jérémie, il est passionnant. Je me suis dit, tiens, je vais le lire et peut-être faire quelques messages là. Mais on va lire Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Parce que Jérémie, ça porte bien son nom, les Lamentations. Là, Jérémie, il est en pleine déprime. Il est pas bien, Jérémie, là. Hein. Il est pas bien du tout quand on lit les 5 chapitres du livre de Jérémie, des Lamentations. Il dit ceci, chapitre 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, il est pas bien, pas bien du tout, à l'absinthe et au poison. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, verset 20. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il était dans le désarroi, il était complètement abattu. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Pour l'âme qui le cherche, il est bon, on retrouve encore la bonté, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Ces bontés, frères et sœurs, ces bontés, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Elles sont pour chacun d'entre nous. Des fois, on n'a pas trop le temps et puis on passe une journée comme ça. Non, Seigneur nous dit les bontés. Et je disais que là, Jérémie est complètement abattu. Il s'adresse à Dieu et parce que, bon, quand on lit le texte, eh bien, on se rend compte que le peuple avait désobéi et puis Jérémie, il est dans l'abattement. Et regardez ce qu'il est dit dans le chapitre 3, toujours des Lamentations, verset 1er. J'ai relevé juste 2 versets comme ça. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Et on voit qu'il est complètement abattu dans le chapitre 2. Et ça va loin quand même. Je dis, je vais pas tout lire pour pas trop vous choquer, mais quand vous lisez le chapitre 2, c'est terrible. Hein. Chapitre 2, verset 21, les enfants et les vieillards, chapitre 2, verset 21 des Lamentations, les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Il dit au Seigneur, tu as tué. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié, tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, etc. Donc on comprend qu'ils disent au départ, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe. Ça aussi, ça m'a amené à réfléchir. Il compare sa vie à de l'absinthe. C'est quelque chose de mauvais. Et la Bible parle de l'absinthe. La parole de Dieu. Et je me suis souvenu de ce texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, quand l'auteur, quand Jean parle de l'Apocalypse, il parle de l'absinthe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette définition du mot absinthe dans le livre de l'Apocalypse, verset 12, il dit ceci, « Le quatrième ange sonna de la trompette, c'est quand il est question des pollutions, etc., et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, verset 11, le nom de, verset 10, pardon, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux, etc., etc. Le nom de cette étoile est absinthe. Je l'ai appris il y a quelques années. En ukrainien, comme ça va l'Ukraine, vous situez, on entend parler depuis deux ans, le mot absinthe en ukrainien veut dire Tchernobyl. Ça vous dit quelque chose, Tchernobyl? Et quand il y a eu la catastrophe le 26 avril 1986 à Tchernobyl, hein, bien sûr, de suite, on a pensé à ce texte, hein, le tiers, etc. On sait que la station, je cherche le nucléaire, la centrale, pardon, la centrale nucléaire a explosé. Bon, on nous a dit que le nuage radioactif s'était arrêté à la France. Hein? Vous rappelez? Il s'était arrêté, voilà, les Français. Et vous savez que ça a donné des cancers et des cancers et des cancers. Hein, les cancers de la thyroïde. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu deux cancers de la thyroïde. J'ai été opéré deux fois en 24 heures de la thyroïde. Et ça, c'est une dizaine d'années après. Une dizaine d'années après, j'étais toujours dans le ministère. Et puis, vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, non? Non? Parce que quand je pense à absinthe, je pense à Tchernobyl et je pense à la thyroïde. Hein. Qui c'est qui souffre de thyroïde là? Qui c'est qui a du lévothyrox là? Bienvenue au club. Hein. Voilà. Et alors, chaque année, on passe une visite médicale dans les assemblées. Et puis, là, je ne sais plus en quelle année. Oui, c'était en 2002, je crois, ou 2001. Je passe la visite médicale, j'étais pasteur à Pertuis, et il me touche. C'est une femme qui était sensible à cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait été opérée, elle, de la thyroïde. Et donc, non seulement vous faisiez l'examen, les yeux, le poids, etc. Hein, mais elle me dit, monsieur Saez, je sens que vous avez un nodule, vous avez quelque chose sur la thyroïde. Bon, il parle toujours, tu m'intéresses. Il faut aller voir. Et bon, j'ai passé une année sans rien faire. Négligence. L'année d'après, elle revient, mais il faudrait. Et là, j'ai dit, bon, là, il y a quand même. Le Seigneur tire la sonnette d'alarme, j'ai été. Et puis, biopsie, il vous plante une seringue, et hop, il prélève du liquide, et pof, et voilà, ça a été vite fait. Les cancers, opération à l'hôpital Nord. 24 heures après, ils viennent, parce qu'à l'époque, bon, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils auraient dû le diagnostiquer avant. Ils reviennent, ils m'avaient déjà tout cousu. 24 heures après, ils viennent et vous disent, mais vous avez un cancer de l'autre côté de la thyroïde. Vous savez, la thyroïde, ça fait un lobe comme ça et un deuxième. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend 3 mois. Moi, je suis dans le ministère, moi, je ne peux pas attendre comme ça. Je dis, vous me réopérez de suite. Ils m'ont réouvert, ils m'ont fait sauter les poings, ils m'ont égorgé 2 fois. Et oui, c'est parce que je ne vous dis pas comment c'est, hein, quand on vous opère. Hein. Voilà, terrible. Et oui, il vous égorge, là. Il t'égorge. Il t'enlève tout, là. Pouah, terrible. Enfin, bref. Et puis voilà, puis après, ça a été quand même... Hein, il faut tout réguler, ça joue sur l'émotion. Un coup, je pleurais, un coup, j'étais énervé. Voilà, c'était catastrophique. Jusqu'à ce qu'ils trouvent. Et puis, il y a ce fameux cachet, là, l'évothyrox qui... Voilà, c'est bien, c'est pas l'organe, mais c'est bien. Voilà, et donc là, Jérémy dit, mais moi, je suis comme de l'absinthe, ça va pas, etc. Mais il dit, mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est les bontés de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. Amen. Il faudrait qu'on y pense. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps à ce verset. Mais Seigneur, tu as dit que tu renouvelais tes bontés chaque matin. Amen. Et moi, je veux être bon pour mon prochain. Gloire à Dieu. Et je regardais un petit peu la biographie de Jérémy. Quand on lit le chapitre 1er du livre de Jérémy, Dieu avait un plan pour Jérémy. Vous savez que Jérémy, ça a été un petit peu il n'était pas trop apprécié. Hein. Les faux prophètes, ils allaient toujours dans le sens du peuple. Tout ce que le peuple demandait, oui. Tout ce que le roi disait, c'était d'accord. Mais Jérémy, lui, il était comme le caillou dans la chaussure. Hein. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, aïe, 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 ça faisait mal. Et le Seigneur... Et je pense, en réfléchissant, bon, je vais vous le dire, d'abord dans le chapitre 1er du livre de Jérémie, au verset 5, vous savez, il y a ce fameux verset quand le Seigneur dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé, vous vous rappelez de ce passage, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu avait un plan pour cet homme. Moi, ça me dépasse, ça. Hein, avant que tu sois formé. D'abord, il dit, c'est moi qui t'ai formé. Le Seigneur a un plan pour notre vie. Amen. Avant même qu'on soit conçu. Avant qu'on entende le... Qu'est-ce qu'on entend en premier dans le fœtus du bébé? Les mamans? Le cœur. Avant que je t'ai formé. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne. Je te connaissais, je t'avais établi. Ça veut dire, j'avais un plan pour toi. Et alors que j'étais en train de recopier, de lire, je dis, mais Seigneur, il faut que je leur dise, parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui met ça sur mon cœur ce matin. Mais Dieu a un plan pour l'Église, pour notre Église. Ça ne vous fait rien si je dis notre Église ? Hein, parce que quelque part, on est là. Hein, pour Dieu a un plan pour l'Église d'Aubagne. Et alors que je réfléchissais, je dis, mais oui, alors ce n'est pas toujours facile de trouver le plan que Dieu a, mais Dieu a un plan. Et je pensais à ce texte, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, et il dit, il a voulu que Dieu, que les hommes cherchent Dieu en tâtonnant. Vous vous rappelez de ce passage? Vous voulez le lire? Vous vous souvenez de ce passage? Ça va, je ne vous torture pas trop là. Actes chapitre 17. Il a dit ceci, je lui ai dit, mais ça c'est pour nous, c'est pour l'église d'Aubagne. Acte chapitre 17, je crois que je l'ai relevé, j'ai relevé la verset 26 et 27. Regardez ce qu'il est dit. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Et c'est peut-être pour nous, l'église d'Aubagne. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et c'est vrai qu'on va peut-être, on va peut-être tâtonner, mais Dieu a un plan. Amen, frères et sœurs. Et moi, je voudrais vous encourager. Dieu a un plan pour l'église. Amen. Mais en plus, il dit, et j'aime toutes les, on est d'accord que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et il est dit ceci au verset 27, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin, le Seigneur. Amen. Et il a un plan pour nous. Comme il a eu un plan pour Jérémie, et il était pas, il lui rappelle que c'est lui qui l'a formé, et Jérémie, dans son livre, c'est l'homme qui a amené tout le temps le peuple à la repentance. Parce que le peuple, il s'égarait. Quand on lit les premiers chapitres du livre de Jérémie, c'était pas glorieux. Hein. Et c'est dans ce cadre-là que Jérémie va évoluer et il va amener le peuple à la repentance. Mais je veux croire, frères et sœurs, je vous encourage à ce que le Seigneur, lui, il a un plan et il va nous bénir. Il va vous bénir, il va bénir l'Église. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et quand Jérémie dit, mais je veux repasser les bontés de Dieu, son message c'était la repentance, et la bonté de Dieu va nous pousser. Et vous savez, sans la repentance, on ne peut rien faire. Hein. On peut avoir le plus beau des programmes, on peut avoir la plus belle des églises, le meilleur prédicateur. S'il n'y a pas la repentance qui est annoncée, s'il n'y a pas la repentance qui est prêchée, il n'y a rien du tout. Ce qui nous ouvre la porte du ciel, c'est la repentance. Amen. S'il n'y a pas la repentance. Et maintenant, on nous dit, ouais, il faut faire attention, pas trop bousculer. Mais c'est le message. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché ? La repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus commence son ministère, il commence en disant, il prêche la bonne nouvelle, il prêche la repentance. Les disciples sont partis annonçant la repentance. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils leur disent? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est ce qui va ouvrir les portes du ciel, c'est ce qui va ouvrir les écluses du ciel et qui va bénir l'Église. Amen. Et peut-être que quelqu'un a besoin de... Vous savez, on est condamné à se repentir, à demander pardon au Seigneur. Et la repentance, c'est aussi demander pardon et se reconnaître que nous avons aussi fauté. Ça, c'était pour Jérémie. Je pensais à ce texte aussi du... Oh là là, le temps comme il tourne, c'est pas possible. Marc chapitre 10, je vais pas pouvoir finir. Hein. Je suis à peine à l'introduction, là. Pff, oh là là. Marc chapitre 10... avec l'homme riche, vous vous rappelez ? L'homme riche, il va s'adresser à Jésus, chapitre 10, versets 17 et 18. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit « Bon maître !» On reste dans le thème de la bonté. Hein. « Bon maître !» lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus ? Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il n'y a de bon que Dieu seul. Celui qui est bon, Celui qui a la bonté, celui qui renouvelle ses bontés pour chacun d'entre nous, et Jésus dit. Et là, Jésus était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme. Et sur la terre, il était limité. Son Père était sans limite. Et c'est pour cela qu'il dit, mais il y a de bon que Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas bon. Jésus est sans péché, je tiens à le souligner. Il est sans péché. Amen. On est d'accord? Et quand il était sur la terre, il était sans péché et il était rempli de bonté, mais il était limité par rapport à son enveloppe qu'il a pris pour venir mourir pour chacun d'entre nous. Mais il lui dit, il n'y a que Dieu de bon. Alors moi, je me suis posé la question, et toi Marc, comment tu es? Qu'est-ce que dit la Bible de toi et de ta bonté? Oh là là, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, ce qui est bon. Romains chapitre 7 verset 18, il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit il y a rien de bon en moi quoi. On a besoin de la bonté de Dieu. Il y a rien de bon. Alors je me dis je leur dis ou pas, et de suite j'ai rebondi sur ce passage, je le cherchais, c'est dans les petits prophètes aussi, je l'ai mis sur mes notes, c'est dans le livre de Michée chapitre 7 verset 4. J'espère que ça va pas. Mais il dit ceci, Michée 7, 4. Michée aussi, il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il dit ceci, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Et le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Il n'y a rien de bon en nous. On a besoin de la bonté du Seigneur. J'ai besoin, Marc, il a besoin de la bonté du Seigneur au quotidien. Paul dit, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il se traite de misérable. Seigneur, j'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin de ta bonté. Moi, j'ai besoin de la bonté du Seigneur parce que ma nature, elle n'est pas bonne. Ma nature, elle est pécheresse. Hein, à moins que la vôtre, non. Mais la mienne, elle est pécheresse. Et j'ai besoin. Hein, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de son esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la bonté. Et le Saint-Esprit, il déverse la bonté de Dieu dans mon cœur et remplis-moi de ta bonté. Hein, ce sont des mots qu'on n'entend plus dans le monde. Être bon pour autrui. Et que le Seigneur. Mais le Saint-Esprit, lui, il manifeste la bonté, il nous donne la bonté, une portion de la bonté du Seigneur. Dieu est bon. Dans le psaume 145, verset 8, il est dit ceci, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Dans le psaume 86, verset 15, il est dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Dans le psaume 30, il est dit que sa colère dure un instant. Et je souris là, parce que je sais ce que je vais vous dire. Là, sa colère dure un instant et sa grâce dure toute la vie. Et je me dis, Seigneur, moi, ma colère, elle dure toute la vie et ta grâce, elle dure un instant. J'ai besoin de la bonté du Seigneur. Amen. Sa colère, elle dure un instant et sa grâce, elle dure toute la vie. Que Dieu soit béni. Dans le psaume 59, j'ai marqué à lire, psaume 59, verset 17, il est question de la... Vous savez, sur la bonté de Dieu, il y en a des textes. Hein. Bon, après, on est obligé de sélectionner. Verset 17, « Et moi, je chanterai ta force, dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Regardez ce qu'il dit, « Car tu es... » Là, la bonté est liée à quelque chose, « Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Amen. La bonté est liée, il dit tu es un refuge, tu es une haute retraite. Vous savez, les refuges, c'est important en montagne. On n'est pas trop des montagnards, on est plutôt des hommes de la mer. Hein, au bord. Mais quand les marcheurs, quand les skieurs arrivent là au bout de 5-6 heures de marche et qu'ils trouvent un refuge où passer la nuit bien au chaud avec une bonne soupe, hein, et le Seigneur dit « moi je suis ton refuge ». Et je te donne ma bonté en plus. Amen. Ayons le réflexe de se réfugier dans la bonté du Seigneur, de trouver un refuge dans la bonté du Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans le psaume 52, verset 10, il est dit ceci. Ah, ça, c'est pour les retraités. Il y a des retraités ici? Levez la main. Il va falloir qu'on... C'est bien, il faut qu'il y ait des travailleurs aussi, comme ça ils nous payent leur retraite. Hein. Psaume 52, verset 10, il dit ceci, « Et moi je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. » Amen. Et l'olivier, il se compare, le psalmiste David, il se compare à un olivier. Vous savez, la signification de l'olivier, c'est un arbre qui dure. Il y a des oliviers qui sont millénaires. Millénaires. Savez-vous que le plus vieux olivier en France, il a 2500 ans. Il est à Cap Martin. Je vous donne le nom, je l'ai noté. Cap Martin Roquebrune. Cap Martin Roquebrune, à la frontière quasiment italienne, vers Menton là-bas, vers les citrons. Et il a 2500 ans. Le plus vieux de France et le plus vieux du monde, il se trouve dans un bourg de Bethléem. Il a 4000 ans. 4000 ans. Il dit, moi, je suis comme un olivier planté et je bénéficie de la bonté. C'est de la durée. Et le chrétien, c'est dans la durée qu'on le voit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est dans la durée. Là, l'olivier, ça symbolise donc la durée, ça symbolise la persévérance. L'arbre, il est robuste, hein, il connaît tous les intempéries, mais c'est dans la durée. Et le chrétien, il vit dans cette persévérance. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 24, le verset m'échappe, mais il dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Hein, qu'on soit des oliviers, voilà. Donc, quand je dis dans la durée, donc ça veut dire que l'olivier symbolise aussi donc la vieillerie. Hein, voilà. Et il dit, je suis comme un olivier verdoyant, qu'on soit toujours vert pour le Seigneur. Vous savez, quand on dit, il y a une expression, mais lui, il a de l'âge, mais il est encore vert. Ça veut dire qu'il a encore du tonus. Et qu'il a encore de la persévérance. Amen. Hein, qu'on fasse partie de ces oliviers plantés dans la maison de Dieu. Amen. Ah, excusez-moi. Donc là, j'ouvre une parenthèse pour les frères. J'avais oublié ce verset, je vous assure. Je vais terminer là, tant pis, je ne pourrai pas finir. Je vais terminer sur une bonne note. Regardez ce que dit Salomon dans le Proverbe 19, verset 22. Ensuite, on va terminer par la prière. Ce qui fait le charme d'un homme, eh oui, je suis désolé, c'est écrit. Prenez les, mes sœurs, prenez, soulignez-le dans votre Bible. Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. C'est pas sa beauté ou sa séduction, mais c'est sa bonté. Alors les frères, il faut être bon, hein. Amen. La bonté. Et souvent, maintenant, l'heure d'aujourd'hui, c'est tout sur le physique, etc. Mais je préfère avoir, parce que on va miser sur la beauté, alors on peut être beau, mais si on n'est pas bon, hein, il vaut mieux avoir quelqu'un d'un peu moins beau, mais être très bon. Et ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alors Seigneur, alors bien sûr, après on l'ouvre, comme ça, là on fait la parité, d'accord ? On fait la parité, comme ça il y aura les sœurs aussi. Seigneur, donne-nous ta bonté. Ce qui va faire le charme d'un croyant, d'une croyante, c'est sa bonté. Amen. Et Jérémie dit que les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. J'avais pris d'autres textes, la bonté nous amène à la prière. Concernant le bon, Jésus dira, si ton œil est en bon état, tout ton être est éclairé. Et la conclusion, c'est entre bon. Je résume, là, j'aurais pu. Vous vous rappelez de ce passage, Matthieu, chapitre 25, verset 23, avec cette parabole des talents. Et 5 talents, 2 talents et 1 talent. 5 talents, il en apporte 10. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Entre bon Et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et que Dieu nous aide à être des hommes remplis de bonté. En tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Le fruit de l'Esprit, c'est la bonté. Amen. Qu'on puisse connaître l'Église comme une Église qui est bonne, que chaque homme, chaque femme a cette bonté. Que Dieu soit béni. On va se lever, on va terminer par...